TELC. Français B2. Jeu d'épreuve témoin numéro 1.
Compréhension de textes oraux, partie 1. Vous allez entendre une émission d'information à la radio. Vous entendrez l'émission une fois seulement. Pendant l'écoute, décidez si les affirmations du numéro 41 au numéro 45 sont vraies ou fausses. Notez vos réponses sur la feuille de réponse numéro 41 à 45. Cochez « plus » pour « vrai » et « moins » pour « faux ». Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les phrases 41 à 45.
Paris. 255 pompiers mobilisés toute la nuit, une gare neutralisée, une galerie de 20 000 mètres cubes inondée pour venir à bout du sinistre, l'incendie survenu vendredi près de la Bibliothèque nationale de France à Paris a été exceptionnel par l'ampleur des moyens mis en œuvre et par sa nature. Près de 8 000 foyers ont été privés d'électricité pendant une période prolongée. 200 personnes ont dû être évacuées de leur logement. Le feu s'est déclaré vendredi à 18h30 dans une galerie technique de 700 mètres de long, de 12 mètres de hauteur et de près de 5 mètres de largeur, située le long de la Seine dans le 13e arrondissement.
Paris. Le mondial de l'automobile, qui a été rallongé de 5 jours cette année pour mieux gérer l'affluence, a connu une première semaine sans bousculade, avec 170 000 visiteurs de moins au cours des 6 premiers jours que durant la même période du salon précédent. Ouvert depuis samedi dernier, le salon a accueilli 401 872 visiteurs jusqu'à jeudi soir, contre 570 000 il y a 2 ans, ont indiqué vendredi les organisateurs.
Grenoble. Afin de trouver les ingénieurs informaticiens dont elle a rapidement besoin, la firme Akasi Technologies a mobilisé jeudi ses 30 salariés en leur demandant de porter, lors de leur déplacement, un t-shirt Akasi Embauche avec mention du site web de la firme, a indiqué Frank Seidel, un cadre de cette entreprise de Mellan en Isère.
Tokyo. Des dizaines de faibles secousses ont continué à frapper, samedi, le sud-ouest du Japon, après le fort séisme de la veille, qui a blessé légèrement plus de 100 personnes et endommagé, parfois définitivement, près de 1800 bâtiments.
Paris. L'association BrailleNet a lancé vendredi, dans le cadre des Journées internationales des aveugles, les 7 et 8 octobre, un portail électronique, voire plus, pour améliorer l'intégration des aveugles et malvoyants. Ce portail démontre qu'offrir des services accessibles aux personnes aveugles et aux malvoyants est possible, a déclaré Dominique Burger, chercheur à l'INSERM et à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris 6e, au cours d'une démonstration publique du portail. Ce portail électronique va permettre, en particulier aux personnes atteintes de troubles visuels, de poser des questions concernant leur handicap dans le cadre d'un forum et d'avoir accès à 1200 livres du domaine public.
Fin de la compréhension de textes oraux, partie 1. Compréhension de textes oraux, partie 2. Vous allez entendre une interview à la radio. Vous entendrez l'interview une fois seulement. Pendant l'écoute, décidez si les affirmations du numéro 46 au numéro 55 sont vraies ou fausses. Notez vos réponses sur la feuille de réponse, numéro 46 à 55. Cochez « plus » pour « vrai » et « moins » pour « faux ». Vous avez maintenant une minute pour lire les phrases 46 à 55. La journaliste Véronique Radier interroge le sociologue Jean Viard sur les motivations qui incitent les Français à quitter la ville pour la campagne.
Au micro de notre émission Vivre en France, nous accueillons aujourd'hui Jean Viard, sociologue. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Viard, de plus en plus de Français partent à la campagne. Pour quelles raisons, à votre avis ?
Dans les années 60 à 70, les Français se sont mis à investir de façon massive dans leur maison, puis lentement à la déplacer vers des lieux chargés en authenticité et en art de vivre. Une évolution fondamentale par rapport aux anciens liens domicile-travail. Doté d'un formidable équipement multiculturel, radio, chaîne IFI, télévision, etc., ces maisons se sont structurées autour d'une nouvelle cellule familiale, plus tribale que hiérarchique. Non seulement la maison n'abrite plus qu'une seule génération, mais chaque enfant dispose de sa propre chambre, sorte de semi-studio autonome. L'habitat a ainsi pris une place fondamentale, celle d'un lieu d'ancrage devant répondre à toutes les aspirations de la famille. Disposer d'un jardin, habiter un village, en font désormais partie.
Et quelles sont les régions qui attirent le plus les Français aujourd'hui ?
Peu à peu, les gens ont commencé à migrer, à s'éloigner des zones urbaines pour gagner des territoires perçus comme plus attrayants. Ce phénomène s'est d'abord fait sentir vers Aix, Grenoble, Nice ou Montpellier, puis autour de Rennes ou Nantes. C'était donc des villes, dans des régions dotées d'un fort attrait touristique et d'une image de qualité de vie qui drainaient de plus en plus d'habitants.
Tu comprends.
Aujourd'hui, ce sont souvent les villages situés à moins d'une heure d'une ville dynamique, par exemple Lyon. Les vacances ont joué un rôle essentiel dans cette mise en désir de nouveaux lieux. Ainsi, si l'on superpose la carte des résidences secondaires et celle des créations d'entreprises, les recoupements sont flagrants.
Mais d'après vous, quelle est la principale motivation des citadins ?
Le clivage culturel ville-campagne a disparu. Voici seulement 40 ou 50 ans, c'était deux mondes très différents. Nous baignons tous désormais, via l'école, la télévision ou la grande distribution, dans la même culture, les mêmes références. L'adolescent de Garges-lès-Gonesse et celui d'Auvergne rêvent du même blouson.
C'est exact.
L'image de la campagne a énormément changé au cours de cette période. Synonyme d'exode rural et de mort dans les années 60, elle représente aujourd'hui la beauté et la liberté. et la ville, qui représentait jusqu'ici la liberté, est, elle, devenue synonyme de loisirs et travail.
Pouvez-vous quantifier le nombre de personnes ayant choisi de quitter la ville et ceux qui préfèrent y rester?
Ce sont les familles avec enfants et les retraités qui cherchent à quitter la ville. Quand les 15-25 ans et les célibataires, en quête à la fois de loisirs et de travail, cherchent toujours à s'y installer. C'est un phénomène d'une grande ampleur. En 10 ans, 500 000 personnes ont quitté la région parisienne et en 25 ans, plus de 1 million de gens se sont installés entre Nice et Montpellier.
Et pourquoi n'observe-t-on pas de telles migrations ailleurs en Europe?
Longtemps, la puissance française est restée essentiellement agricole. Et ce n'est qu'en 1932 que le nombre de citadins l'a emporté sur celui des ruraux, alors que c'était chose faite depuis longtemps en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Si bien que nous sommes très nombreux à avoir des racines rurales, qu'elles soient réelles ou imaginaires, construites au fil des ans et des générations autour d'une maison de vacances où ont eu lieu mariages, fêtes de famille, enterrements. Nous détenons d'ailleurs un record mondial quant au nombre de résidences secondaires par habitant. Cette présence tardive de la civilisation paysanne a concouru à forger notre identité nationale au XIXe siècle sur un mythe de la diversité des terroirs.
Vous avez analysé les motivations de cette population migratoire. Que cherche-t-elle?
Une campagne désirée, idéalisée sous le soleil des vacances, ou bien un centre-ville historique. Car les deux mouvements existent. Ils sont en quête d'authenticité, de calme, de nature et de sécurité, loin des villes et surtout des banlieues. Mais attention, nous ne sommes pas face à de nouveaux ruraux sédentaires. Ce sont des êtres mobiles qui posent leur nid au gré de leur parcours. Leurs racines ont des ailes.
Est-ce là encore un miracle des nouvelles technologies modernes?
En quelque sorte. Paris, grâce au TGV, est une ville de proximité pour des millions de provinciaux. Mais le succès immédiat des nouveaux outils de mobilité virtuelle, portables, Internet, vient aussi de ce qu'ils nous permettent enfin de recomposer à titre privé le temps et l'espace dans notre quotidien. Et l'on peut prévoir une accélération des bouleversements, encore accentuée par les 35 heures et la fin de la norme des heures ouvrables au travail.
Le sentiment général est pourtant que nous travaillons de plus en plus. Partagez-vous aussi cette opinion?
En réalité, le temps de travail ne représente plus en moyenne que 10 à 12% de la vie d'un homme, concentré de plus en plus, ce qui est regrettable, entre 30 et 55 ans. Le modèle du travail en usine ou en administration, avec des horaires rigides imposant des transports au même moment pour tous, ne cesse de perdre du terrain. On a cru, voici quelques années, que le télétravail allait créer des emplois dans des zones isolées.
Et alors?
Ce n'est guère le cas, mais les nouvelles technologies favorisent une société où l'individu se déplace avec son travail, comme l'escargot avec sa coquille. L'idéal de cette société est de passer sans cesse de la cité à la campagne, suivant des variantes multiples, résidence secondaire, petite semaine de vacances à répétition, travail en ville, vie en campagne, retraite au sud. Nous sommes dans une période où nous avons chacun à réinventer notre temps et notre territoire.
Mais n'est-ce pas là, d'une certaine manière, une vision idéalisée de la situation? Chacun peut-il en profiter?
Ces évolutions ne sont pas réservées aux élites, mais comme pour les vacances, il y a des exclus, et beaucoup. Une nouvelle carte des inégalités est en train de se dessiner entre ceux qui sont mobiles et peuvent choisir leur lieu de résidence et l'organisation de leur temps, et ceux qui restent sédentaires, que ce soit pendant les vacances ou le reste de l'année. Certaines banlieues, certaines anciennes villes ouvrières, deviennent ainsi des sortes de sas où ne restent que ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Dans le même temps, les villages dynamiques et les quartiers historiques, eux, ne cessent de gagner en vitalité, en convivialité. Les festivals, les fêtes locales, les dîners de village se généralisent. Si l'on y prend garde, nous risquons de nous retrouver demain dans une société avec une majorité mobile et une minorité piégée dans les ghettos de l'habitat des années 60.
Eh bien, Monsieur Viard, je vous remercie de cet entretien.
Merci aussi.
Fin de la compréhension de textes oraux, partie 2. Compréhension de textes oraux, partie 3. Vous allez entendre 5 petits textes. Vous entendrez chaque texte une fois seulement. Pendant l'écoute, décidez si les affirmations du numéro 56 au numéro 60 sont vraies ou fausses. Notez vos réponses sur la feuille de réponse, numéro 56 à 60. Cochez « plus » pour « vrai » et « moins » pour « faux ». Numéro 56. À la radio, vous entendez le communiqué suivant.
Voici un communiqué de France Dimanche. Exclusif France Dimanche. Céline Dion. En pleine grossesse, elle chasse son mari. Pour René, le choc a été déchirant. Dans France Dimanche, Caroline bouleverse sa vie familiale. Le prince régné, le cœur brisé. Affaire Yves Montand, un nouveau coup de théâtre. Aurore nous confie son nouveau combat. France Dimanche, toutes les émotions de la vie. C'était un communiqué de France Dimanche.
Numéro 57. À l'aéroport, vous entendez l'annonce suivante.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons procéder à l'embarquement du vol Air France 5881 à destination de Lyon à l'heure prévue. Malgré une prévision de retard d'environ 30 minutes dû à l'encombrement de l'espace aérien. Ainsi, nous serons prêts au décollage dès qu'une amélioration nous sera offerte. Nous vous prions de bien vouloir tenir votre carte d'accès à bord à notre disposition et de cesser de fumer. Air France vous souhaite un agréable vol.
Numéro 58. Vous entendez le message suivant sur le répondeur du Splendide Saint-Martin.
Bonjour. Vous êtes bien au Splendide Saint-Martin, 48 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 6e à Paris. Prochain spectacle à partir du mercredi 27 septembre. Le Béret de la Tortue, une comédie de Jean Del et Gérard Sibleras, avec Patrick Fiery, Judith Elzen, Valérie Even, Gilles Gaston-Dreyfus, Raphaëline Goupillot et Jean-Luc Porraz. Mise en scène, François Rollin. Le spectacle a lieu du mardi au samedi à 20h45, matinée le samedi à 17h30. Le prix des places est de 30, 25 et 15 euros. Du 27 septembre au 3 octobre inclus, vous bénéficiez de l'opération « Soyez les premiers aux premières ». Les places seront ces jours-là de 15 €, 12,50 € et 7,50 €. La location est ouverte sur place et par téléphone du mardi au samedi de 13 h à 19 h. Vous pouvez également louer vos places dans les FNAC, Virgin et agences. Merci de votre appel et à bientôt.
Numéro 59. Vous écoutez les prévisions météo à la radio.
Des nuages prédominant sur un large quart nord-ouest. Aujourd'hui, de la Bretagne aux Charentes jusqu'à la pointe du Médoc, ainsi que sur les rivages de la Manche, le bassin parisien, le centre et les régions du nord, la journée va se dérouler sous un ciel le plus souvent assez couvert. Les nuages épais, sans grande activité, s'accompagneront ce matin sur les pays de la Loire, le Poitou, l'Île-de-France, le Pas-de-Calais, de quelques gouttes, d'un peu de crachin. Cet après-midi, il ne pleuvra plus, mais le soleil aura du mal à percer. En allant vers l'est, les nuages, moins compacts, laisseront passer un peu de soleil. Et sur le sud des Pyrénées, le massif central et les Alpes, les éclaircies l'emporteront. Autour de la Méditerranée, le vent mollira aujourd'hui. Des orages continueront cependant à affecter la Corse. Quant aux températures en progression sous le soleil au sud, elles resteront proches de 16 à 18 degrés en moyenne sous les nuages au nord de la Loire.
Numéro 60. Sur le répondeur du musée Picasso, vous entendez ce message.
Le musée Picasso présentera, en plus de ses collections permanentes de Picasso, Nicolas de Staël, Hans Hartung et Anna Berkman, une exposition temporaire intitulée « Un siècle d'arpenteurs, les figures de la marche ». Exposition en deux volets, dont le premier, de Rodin à Giacometti, débutera le 1er juillet pour se terminer le 15 octobre. Le musée Picasso est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10 h à 18 h, avec une nocturne jusqu'à 22 h tous les vendredis.
Fin de la compréhension de textes oraux.